Vous écoutez RTL.
Invité de RTL Midi à 12h50, c'est Philippe Bruno, président du Cercle des fiscalistes. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Stéphane Carpentier.
On avait besoin de vous pour y voir un petit peu plus clair, puisque ce matin sur RTL, Martial Liu nous apprenait que le gouvernement avait dans le collimateur l'assurance vie et qu'il pourrait alourdir la fiscalité qui pèse au moment de la sortie. Actuellement, on est d'accord, on paye une taxe de 23% lors du déblocage du contrat. L'idée là, la fiscalité, elle pourrait monter à 30%. Là aussi, on est d'accord sur les chiffres. Qu'est-ce qui se cache derrière, selon vous, et est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette idée du gouvernement?
Non, il n'y a rien, et je ne crois pas qu'il y ait d'agenda caché. Emmanuel Macron s'est engagé à faire en sorte que les revenus du capital soient taxés à un taux unique de 30%. L'assurance-vie produit des revenus du capital, le revenu de l'épargne. La question était de savoir si il devait garder un régime spécifique qui était donc moindre, en l'occurrence 23% au-delà de 8 ans, ou s'il devait s'aligner à 30%. Le gouvernement, a priori, puisqu'en fait les arbitrages n'ont pas encore été rendus, mais a priori, le gouvernement s'oriente vers une taxation unique pour tout le monde au taux de 30%.
Donc pas d'inquiétude pour tous ces millions de Français qui ont choisi l'assurance vie.
Alors, ça veut dire quand même qu'il va y avoir une augmentation. Ça veut dire 7% de plus au-delà de 8 ans. Ça veut dire plusieurs points de moins pour ceux qui débloquent leur assurance vie avant 8 ans. Mmh. Puisqu'avant, les 4 premières années, c'était 35% plus les prélèvements sociaux, donc 15,5% quand même, ça fait beaucoup. C'est 15% plus les 15,5%, c'était plus de 30% entre 4 et 8 ans. Donc sans rentrer dans tous les détails, ça pénalise ceux qui attendaient longtemps, qui attendaient au-delà de 8 ans. Mmh. A priori, d'après ce que l'on... les informations que nous avons, dont nous disposons aujourd'hui et qui ont été explicitées par Martial Liu il y a quelques minutes, on est sur une flat tax de 30%, quelle que soit la date à laquelle vous opérez votre retrait. Mm-hmm. Que vous opériez votre retrait au bout de 6 mois après avoir placé votre argent, ou au bout de 6 ans, ou au bout de 15 ans.
Donc ça vous paraît plus juste finalement?
C'est pas que ça ne paraît plus juste, ça paraît aller dans la voie de la simplicité afin que tous les Français comprennent que où qu'ils placent leur argent en matière d'épargne, les revenus qu'ils tireront de cette épargne sera taxé à un taux unique de 30%. Alors parfois on gagne, parfois ça veut dire qu'on est légèrement handicapé et que l'on subit une petite augmentation.
Oui, ceux qui vont perdre, ce sont ceux qui possèdent plus de 150 000 euros sur leur contrat.
Alors c'est ce que j'ai cru comprendre
sur
aussi.
Sur les futurs contrats. Hein,
c'est l'information dont nous disposons. On est sur des contrats de plus de 150 000 euros, ce qui représente à peu près 4 millions de contrats.
C'est déjà pas mal.
Sur les 54 millions existants en ce moment.
Le but du gouvernement, de l'Élysée, de Matignon et de Bercy dans cette histoire, c'est de faire quoi? Que l'argent circule? Que l'argent arrête de dormir?
Alors, en créant cette flat tax, c'est-à-dire en dissociant le paiement de la fiscalité du travail qui est soumis au barème d'une fiscalité de l'épargne qui est soumise à un taux fixe, en l'occurrence de 30%, donc vous n'avez plus le barème d'imposition, le gouvernement veut relancer l'investissement et orienter l'épargne des Français vers le capital productif. Mmh. Ce qu'il fait aussi en supprimant une partie de l'ISF, on va dire.
Oui, en réformant l'ISF. Il y en a marre de l'argent qui dort.
Voilà.
C'est la même idée, effectivement, que la réforme de l'ISF.
Et deuxième objectif, d'arrêter les départs de Français pour des raisons fiscales, ce que l'on appelle l'exil fiscal. Voilà les deux grands objectifs du gouvernement.
Investir dans l'économie réelle, pour vous, c'est justifié ou pas? Comment les Français vont le vivre, à votre avis, cette histoire? Est-ce qu'ils ne vont pas juste retenir une taxation supplémentaire?
Et 7% de plus?
Je le pense parce que, alors je répète, nous n'avons pas encore les arbitrages, mais à ce stade, je ne vois pas en quoi on va orienter l'argent vers l'investissement productif. Bah c'est-à-dire que les contrats d'assurance-vie, chacun le sait, en tout cas les 54 millions de contrats, en tout cas les millions de Français qui ont des contrats d'assurance-vie le savent, vous avez deux grands types de contrats, les fonds en euros, qui ne sont pas spécifiquement dans l'investissement productif, sont plutôt pour refinancer la dette de l'État. Et puis vous avez l'unité de compte, là c'est la bourse, c'est risqué, mais là c'est productif.
Oui,
aujourd'hui, la fiscalité est la même.
Oui, et puis en plus, ils n'ont pas forcément envie de placer leur argent sur quelque chose qui est plus dangereux. Et on leur force un peu la main.
On leur force la main avec une fiscalité adéquate. On peut dire que la main leur est déjà très très clairement tendue avec des rentabilités qui sont de plus en plus faibles. Mmh. Christelle Robillard, d'ailleurs, on est aujourd'hui sur les placements sans risque au sein d'un contrat d'assurance vie, ce qu'on appelle les fonds euros, oui. ça rapporte 1,5% à peu près. Hein. Donc on est vraiment. C'est mieux que les livrets A, mais avec une inflation de même calibre, en gros, on maintient son capital. On ne peut pas dire que l'on valorise son patrimoine. Donc on est en train de mettre une fiscalité incitative pour orienter une partie de cette épargne sans risque vers des placements un peu plus risqués, mais plus productifs pour notre économie.
Merci beaucoup, Philippe Bruno, président du Cercle des fiscalistes. Merci de nous avoir éclairé sur cette modification de la taxe sur les assurances-vie.
Voilà, c'était important de le préciser à tous les auditeurs qui étaient avec nous, évidemment.